à toutes et à tous, curieuses et curieux, diseurs, diseuses, briseurs, briseuses de chaînes, de tabous, de silences, bonjour et bienvenue dans l'onde curieuse de ce lundi 9 mars. Aujourd'hui, que peu la littérature, quand même les coquelicots ont pris la couleur des ténèbres, et pour une fois le dérèglement climatique n'y est pour rien. Que peut la littérature quand 2 à 3 enfants par classe sont victimes d'inceste ou de violences sexuelles dans leur enfance? Que peuvent les mots quand seuls 8% des victimes qui se sont confiées ont bénéficié d'un soutien social positif? Que peuvent les livres quand moins de 1% des plaintes pour viol ou agression sexuelle incestueux aboutissent à une condamnation? Aujourd'hui, on parle de la rencontre des coquelicots de Jim Morrison. On reçoit Diane Pellin, qui, comme Neige Sino avec Triste Tigre, Camille Kouchner avec La Familia Grande, Toni Morrison avec L'œil le plus bleu, ou bien encore Claude Ponty avec Les Pieds Bleus, croit que la littérature peut quelque chose, et l'amour aussi. On la reçoit pour son dernier livre, paru aux éditions du 81, Le Coquelicot Noir, qui met des mots sur l'inceste. On en parle dans un instant, après le bonjour à Sylvain.
Bien le bonjour.
Toujours là, salut Sylvain. Et puis à Marion, bonjour Marion.
Bonjour.
Et l'agenda.
La biodiversité s'expose, c'est le nom de l'exposition du club photo Vivier Nature Environnement qui aura lieu au château de Pradelles à Bourg-Saint-Andéol. Donc c'est une exposition d'une collection de photographies de papillons, d'odonates, d'oiseaux, de mammifères d'Ardèche méridionale. Et le vernissage de l'exposition a lieu ce soir à 18h au château de Pradelles à Bourg-Saint-Andéol. L'Université populaire de la Basse-Ardèche organise une conférence sur le thème « Les Arméniens en Ardèche » avec Jean-Luc Huard, spécialiste de l'exil des Arméniens en Auvergne-en-Alpes. C'est donc ce soir à 18h30 à l'espace dédié à Ussel. Le cinéma Le Navire vous propose une projection en partenariat avec le Ciné Chardon, qui est un ciné-club queer à Aubenas. Il vous propose de voir Pédale Rurale d'Antoine Vasquez. Le film fait le portrait de Benoît, qui témoigne de son expérience en tant que personne queer vivant à la campagne. La projection aura lieu demain à 20h au cinéma Le Navire à Aubenas, en présence du réalisateur Antoine Vasquez. Tout de suite, un petit extrait.
Ce qui a changé? Donc on me dit que je suis queer, ouais. Et moi, je sais que je suis dans une phase où j'ai besoin de m'enlever ces mots-là. J'ai besoin qu'il n'y ait plus de mots. Je crois que j'avais aussi un peu besoin d'en parler. Parce que le queer, je ne sais pas si je me le représente bien.
Habitant ici depuis toujours, j'ai pas l'impression qu'on soit nombreux. Quand je vois qu'on est là ce soir et que je ne vous connaissais pas, effectivement, peut-être qu'on est tous bien cachés et bien embusqués dans nos campagnes.
C'est hyper violent ce qu'on a eu à subir quand on était enfant dans un endroit comme ça.
Le premier rendez-vous du Festival des Insolites a lieu demain, mardi 10 mars à 20h30 au Théâtre des Quinconces. Donc le duo stéphanois Ella et Pitre présente Fermez les yeux, vous y verrez plus clair. Ils sont connus pour leurs fresques monumentales. Les artistes, ils investissent la scène pour une performance plastique immersive. Entre humour et poésie, la peinture devient acte théâtral. Pour en savoir plus sur ce Festival des Insolites, je vous invite à réécouter notre émission de l'Onde Curieuse de jeudi 5 mars sur notre site fréquence7.net. Il y a toujours 2 places à gagner pour ce premier spectacle. Il vous suffit d'envoyer votre nom, prénom et numéro de téléphone à notre adresse email contact@fréquence7.net. Demain, de 14 à 16 heures, la médiathèque d'Aubenas vous propose une escale parentale. Donc, une infirmière diplômée vous propose un soutien à la parentalité autour des questions de l'allaitement, du biberonnage et aussi de la grossesse, du postpartum et des maux de bébé. Et pour finir, pour les amateurs de cinéma fantastique, on vous donne rendez-vous vendredi 13 mars à 20h au cinéma Regain, donc pour Auteuil, c'est ça, pour une nouvelle séance du cycle Cinéculte, donc à l'affiche cette fois-ci Dracula, un film de Francis Ford Coppola, revisitant le mythe du célèbre vampire. Donc cette projection est organisée en partenariat avec la Maison des habitants d'Alba la Romaine, une occasion de redécouvrir sur grand écran ce film emblématique qui continue de fasciner les spectateurs plus de 30 ans après sa sortie.
Ouais, Dracula qui suce le sang comme d'autres sucent la sève de la vie de certains. Voilà pour la transition avec notre sujet et Diane Pellin qui est là pour nous parler du coquelicot noir, mais juste, ça c'est juste après Spanish Caravan des Doors. De l'album Waiting for the Sun, c'était en 68, parce que la lumière peut revenir et on peut coller un petit sticker derrière sa voiture pour partir vers d'autres horizons. On est ensemble avec Diane Pellin pour parler de son dernier livre, Le Coquelicot Noir, qui aborde, certes avec la poésie, mais aussi frontalement l'inceste. Merci d'abord Diane d'être ici avec nous.
Merci Sophie, merci Marion pour l'accueil.
Alors on parle de Jim Morrison, il va venir avec nous parce que Jim Morrison est très présent. Jim, c'est le nom du protagoniste du livre. Alors Diane, d'abord une première question, pourquoi ? Pourquoi avoir fait ce livre autour de cette question si lourde, si pesante ?
C'est un roman que je porte depuis plusieurs années maintenant. Il a été long à écrire. Comme tu dis, ce n'est pas un sujet évident, hein, les violences intrafamiliales, donc plus particulièrement l'inceste. C'est un chemin donc, qui n'est pas intime, puisque j'étais élevée et aimée vraiment dans l'amour et le respect, donc je n'ai pas subi de violence intrafamiliale. Malheureusement, dans mon environnement, énormément de personnes sont touchées, des proches à moi, des personnes que j'accompagne en atelier d'écriture. C'est devenu trop présent, en fait, dans ma vie, ces violences-là. Et à un moment donné, dans mon parcours d'écriture, je me rends compte finalement, c'est mon 8e roman, et il y a quand même, au-delà d'écrire et de faire de la littérature, et parce que c'est ça que j'aime faire, il y a une nécessité du dire. Je l'avais déjà eu dans des précédents ouvrages. Chambre 442, c'est sur la prostitution en Thaïlande. La Grande Roue, sur les violences conjugales. Sur cette fois-ci, c'était sur les violences conjugales. Donc des sujets qui ne me touchent pas intimement, mais qui me touchent en tant que femme, en tant que mère, en tant que citoyenne, en tant qu'être humain. Et donc il y a des moments, des nécessités d'écrire. Et celle-ci en était une. Il fallait vraiment que je parle de... que je puisse donner la parole à ces enfants dans un texte. Donc, c'est chose faite aujourd'hui.
Le sujet, pour toi, le sujet profondément, parce que là, on parle d'inceste, mais c'est plus que ça. Qu'est-ce que tu as voulu gratter là-dedans?
En fait, c'est au départ, je ne savais pas ce que c'était vraiment, que ces violences intrafamiliales. Bien sûr, je savais que les enfants étaient maltraités à plein d'endroits. Et ce texte n'est pas seulement un cri que je veux pousser, c'est pas seulement le récit de personnes que j'ai entendues, c'est aussi un travail de recherche. Et ce travail de recherche, c'est peut-être 2 années de lecture, d'essais, d'écoute approfondie du sujet. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était au-delà de l'inceste, c'est un problème systémique, c'est un système, c'est un problème sociétal qui dépasse complètement les familles, qui dépasse complètement un abus sur un enfant. C'est un système qui permet ça aujourd'hui, qui est complètement installé. C'est un problème de silenciation, la silenciation des victimes, la silenciation des sujets tabous, etc., etc. Et ça n'a fait que conforter cette volonté d'écrire ce texte, parce que je me suis dit, en fait, ça nous dépasse. Et même moi, quand j'ai commencé l'entreprise de cette écriture, je ne me rendais pas compte à quoi j'allais être confrontée. Et aujourd'hui, c'est gigantesque, le gouffre. On se rend compte quand on commence à étudier les chiffres que c'est dramatique et que c'est vraiment un système qui permet ça aujourd'hui, vraiment.
Et tu le disais, on en disait juste un mot avant de prendre l'antenne. Parmi tes recherches, tu cites aussi Dorothée Ducy, oui. Qui dit « L'inceste en tant qu'exercice érotisé de la domination est un élément clé de la reconduction des rapports de domination et d'exploitation. La famille est le socle de la violence dans notre société. »
Tout à fait.
Parce que, on va redire les chiffres, 2 à 3 enfants par classe sont victimes d'inceste, 10% des Français déclarent avoir été victimes d'inceste, c'est-à-dire que 1 sur 10, dans une famille, il y a plus de 10 personnes. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre...
C'est gigantesque, les chiffres sont vraiment terrifiants.
Donc on ne peut pas dire que c'est une anomalie, un monstre, ça fait partie du système et ça fait partie de domination.
Tout à fait, tu emploies le mot monstre, Dorothée Ducy en parle vraiment et c'est beaucoup d'études là-dessus parlent de ça. En fait, il n'y a pas de monstre, il y a des hommes qui se permettent, qui s'autorisent parce qu'un système les y a autorisés. Et ça, depuis des siècles et des siècles. Et on en est encore là. Et c'est ancré. On voit, les affaires n'arrêtent pas d'être ouvertes de partout. Et rien ne se passe. La justice ne fait rien. C'est-à-dire qu'il y a une impunité totale, mais totale. Les chiffres, donc tu parles de chiffres, 10% de la population française, sur ces 10%, un tout petit pourcentage osent parler, c'est-à-dire que sur ces 10%, il y en a plein qui ne parleront jamais vraiment, ils l'ont dit pour des enquêtes, mais c'est pas dit, ils n'ont pas porté plainte. Le peu qui porte plainte, c'est 70% de classement sans suite sur les peu qui portent plainte, donc il y en a 30% qui sont mis en examen, et sur ces 30%, c'est 1% de condamnation. Donc c'est ridicule, on parlait de la parole de l'enfant tout à l'heure, elle n'est pas entendue. Les enfants sont traités de menteurs, de raconteurs d'histoires. On ne croit pas à leurs paroles.
On ne croit pas à leurs paroles. Et je vais juste redire 2 mots. J'ai sorti donc un livre, La fabrique de l'enfance, de Sébastien Charbonnier, qui viendra en parler dans quelques temps et qui met en avant justement cette domination par l'âge ou cette domination par l'ancienneté. Les enfants ne sont pas considérés comme des êtres humains au même titre que ce qu'on appelle les adultes. Et il recite la formule du rapport de la CIVISE, donc la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui a été créée en 2022, et ce rapport date de 2023. Dans ce rapport, il est dit... j'espère donc que les enfants en entendront parler et se diront que nous avons fait un travail sérieux, comme les enfants font un travail sérieux, parce que les enfants sont des gens sérieux qui vivent leur vie sérieusement. J'ai l'impression, même tout autour de moi, que ces mots, en fait, ne sont pas considérés, en fait, que les enfants ne sont pas considérés comme des êtres à part entière.
Tout à fait.
Sérieusement. Alors, au-delà, enfin, c'est pas au-delà du sujet, mais comment toi, par les formes littéraires, comment tu t'es dit littérairement avec les mots et singulièrement avec la poésie aussi, qui est ton moyen d'expression, comment tu t'empares de ça ?
C'est pour ça que c'est un long processus, c'est-à-dire que déjà, qui je suis moi pour me permettre d'écrire sur un tel sujet aussi sensible. Quand tu parles de Neige Sino, de Camille Kouchner, ce sont des personnes qui ont été intimement... Alors Camille Kouchner, elle est un peu ouais, comme moi. C'est-à-dire c'est que c'est un peu, je prends un peu la même position qu'elle. C'est-à-dire que je suis pas celle qui a été abusée, mais par contre, je souffre par ricochet d'une personne qui a été abusée. Et donc, c'est là où on se pose, on se dit, bon, moi, j'ai besoin de parler de ça, parce que ça me touche intimement par ricochet. Donc déjà, la légitimité, c'est le premier point. Est-ce que je suis légitime pour écrire là-dessus? Ensuite, il y a comment j'en parle. Donc moi, je suis romancière, donc c'est la fiction, ça va pas être du récit. Mais ce récit, cette fiction, je ne veux pas l'inventer, parce que je veux pas, voilà, sur ce coup-là, je veux pas inventer. Donc c'est des centaines et des centaines d'heures d'écoute, de témoignages, de lectures. Donc je sais même plus combien j'ai d'histoires avant de me lancer moi dans l'écriture. C'est-à-dire que là, le texte que tu liras, quand on lit Le Coquelicot Noir, c'est l'histoire de Malo. Mais Malo, il y a un peu de mon compagnon qui a été un enfant malheureusement abusé. Il y a un petit peu d'une amie qui a été abusée. Il y a un petit peu d'une femme que j'ai entendue à la radio. Il y a un petit peu de ce que j'ai lu dans un témoignage. Il y a un petit peu, etc., etc. Donc c'est un puzzle en fait de beaucoup, 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 beaucoup de récits vrais. Et comment avec ça je vais tisser un enfant qui s'appelle Malo, et comment je vais mettre un petit peu de tous ces enfants abîmés dans un seul enfant. Donc il y a ça déjà, il y a cette réalité du terrain. Et à côté de ça, il y a tout ce travail de recherche au niveau de qu'est-ce que c'est qu'un processus de psychotrauma. Un psychotrauma, c'est pas n'importe quoi, c'est très clair. Et ça d'ailleurs, c'est un gros problème, c'est-à-dire que peu de psychologues sont formés au psychotrauma. Donc, on traite des gens pour des dépressions, pour des maladies psychiatriques ou psychologiques. En fait, ce sont des conséquences d'un psychotrauma. Et donc, je me suis beaucoup intéressée au psychotrauma. D'ailleurs, c'est Muriel Salmona, une neuropsychiatre que j'admire et qui fait un travail exemplaire là-dessus, qui forme les gens au psychotrauma. Et donc là, pareil, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le processus? Donc, il y avait tout ce travail sur le processus du psychotrauma et après, tout le processus sur qu'est-ce que l'emprise d'un père, d'un oncle, d'un grand-père sur un enfant. Et ça aussi, j'ai étudié là-dessus. Et donc, ça a un peu de l'étude, un peu de la neuro, il y a de la neuroscience, il y a plein de choses mélangées pour qu'on puisse suivre vraiment de l'intérieur, malheureusement, le processus, l'histoire d'un enfant abîmé.
C'est ça, c'est l'histoire d'un enfant abîmé, mais tu le dis justement, on voit justement tous les proches, le père, la mère, évidemment le grand-père, la grand-mère, tout ce qui se passe ou tout ce qui ne se passe pas à cet endroit-là. C'est à la fois un processus et puis une mise en lien avec tous ces personnages. Comment chacun se positionne sur cette histoire.
Oui, c'était important de montrer qu'au-delà de ce que vit la victime, qui est déjà rien que... Enfin, ce récit-là est terrifiant et terrible. À côté de ça, qu'est-ce qui se passe? Et il ne se passe rien. Et j'avais vraiment envie de montrer cette immobilité, cette impossibilité, ce déni collectif autour de la question des abus. Et donc, c'est ça aussi que j'ai mis dans l'histoire. Donc, voilà, c'est un peu un mélange de tout ça pour que ce ne soit pas que du roman, en fait. Mmh. Et d'ailleurs, je mets un avertissement au début du livre, hein, pour expliquer que c'est, voilà, on peut s'y retrouver, malheureusement, parce que ce n'est pas inventé, quoi, ce que j'ai écrit. Mmh. Donc, beaucoup de gens peuvent s'y retrouver.
Sur la forme, ce n'est pas une forme linéaire. Tu as choisi justement une forme, d'ailleurs, tu le dis, c'est une forme en pétales, donc de coquelicot, donc avec des flashbacks, avec des fragments, des incursions. Qu'est-ce que ces formes fragmentées permettent ?
Pour chaque texte, il y a beaucoup d'étapes d'écriture. Donc le premier G, on va dire que c'était linéaire, chronologiquement linéaire. On suivait un enfant, d'ailleurs je ne le nommais pas au début, il s'appelait l'enfant. C'était un livre sans prénom et il y avait l'enfant du début à la fin et on suivait tout le processus de ses 6 ans jusqu'à l'âge adulte. Et puis au fur et à mesure des lectures, de faire lire à des éditeurs, etc., j'ai commencé à retravailler le texte. Il y a eu l'idée, donc déjà le prénom... Pour beaucoup de gens, c'était important qu'il y ait un prénom. Parce que je voulais quelque chose d'universel, mais finalement, en ne nommant pas l'enfant, je lui enlevais une humanité. Donc j'ai dit, oui, non, l'idée du prénom, il faut que je remette un prénom. Mais c'est les seuls. Il n'y a que l'enfant que je nomme, en fait, finalement. Tous les autres n'ont pas de prénom dans l'histoire. Donc je voulais vraiment qu'il reste quand même au centre et que ce soit que lui qui soit nommé. Les autres ne sont pas nommés. Et ensuite, il y a eu cette idée de découpage du passé et du présent, aussi pour donner un peu de rythme. Et finalement, c'est devenu, je me suis rendu compte, vraiment hyper important, parce que l'enfant adulte, on rencontre l'enfant, enfin un adulte, mais qui était un enfant qui a été abusé, et on rencontre en même temps l'enfant qui va rentrer malheureusement dans ce processus, qui va devenir un adulte abîmé. Et donc il y avait cette mise en relation entre les deux, en écho tout le long du livre avec ce passé-présent. Et en fait, ça, je trouve que ça servait beaucoup aussi l'intensité. Et puis les liens qu'on peut faire entre... Finalement, ce n'est pas qu'un enfant, qu'un abîme, c'est un adulte en devenir qui ne va pas être capable de vivre sa vie. Et ça, c'était important aussi par ce parallèle passé-présent. Donc ça s'est fait en plusieurs fois. La poésie m'a permis des moments de respiration aussi dans le texte. Il y avait des vraies questions. Hein. Est-ce que je mets les mots ? Est-ce que je peux tout dire ? Donc je l'avoue que dans la première version, il n'y avait pas... Il y a une page un peu difficile d'énumération de faits. Elle n'y était pas au début. Je travaillais beaucoup plus sur l'ellipse au début. Donc il y a même des espaces blancs que j'ai laissés. Hein. Il y a des espaces blancs où il n'y a pas de texte, parce que c'est indicible ce qui se passe. Et puis finalement, à la fin, j'ai dit non, il faut que je mette des mots, je ne peux pas traiter de ce sujet. Il y a une réalité, il y a une réalité du corps, il y a une réalité de l'horreur. Donc il y a une page dans tout le livre où il fallait que je pose quelques mots prosaïques. Voilà.
Et tu dis, tu décris, effectivement, tu décris tout ce qui se passe. Mais j'ai l'impression que aussi dans l'écriture de tout le roman, il y a quelque chose. D'abord, tu choisis le présent.
Oui.
Tout est au présent. Tout est presque quelquefois à la fois descriptif. Tout est descriptif. On décrit tout. Tu décris tout l'environnement de Malo, la maison dans laquelle il était, tout jusqu'à. Il y a quelque chose comme ça de très presque clinique. Qui permet peut-être, enfin en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, qui permet peut-être de s'extraire un petit peu, pour le lecteur ou la lectrice, en tout cas moi que j'étais, c'est comme ça que j'ai ressenti, de s'extraire un petit peu de tout ça. Est-ce que c'était quelque chose que tu as imaginé ou...
Oui, alors après, j'ai pas. C'est vrai que c'est ma façon aussi d'écrire, de faire des tableaux, comme des tableaux en fait, à des moments. Je fais peu de dialogues, il y a très peu de dialogues. Donc, ça, c'est une façon que j'ai d'écrire. Et c'est vrai que je travaille beaucoup le détail, l'environnement. J'ai besoin que le lecteur soit en immersion, donc ça permet l'immersion. Mais d'après ce que tu dis, ça permet aussi d'être un peu diverti aussi, j'ai l'impression, et de supporter des choses à d'autres endroits. Mais oui, c'est une façon que j'ai d'écrire qui est assez... il faut vraiment que ce soit clair, quoi, pour moi. Quand le lecteur lise, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est du détail.
Est-ce que tu peux nous faire entendre un petit extrait de ton choix ?
Oui, donc là j'en ai un où on va rencontrer Malo. Malo tout petit. Malo a passé l'été dans les herbes hautes et grillées, dans le hamac entre les deux mûriers, sur le mur du jardin, dans la voiture en réparation, contre la peau de sa mère, dans l'axe de son père, sous le parasol multicolore, près des ruisseaux, contre le mur froid du hall, avec ses playmobiles, sous son bob. Malo est un soleil, c'est la mère de Malo qui dit ça. Mon soleil. Malo parle peu mais sourit tout le temps. Il est extasié par le poids des plumes et par le langage du vent. Il croit aux grains de sable et à la poussière d'argent. Quand le jour se lève, il chante. Il se prend pour un rossignol parfois, même s'il n'en a jamais vu. Il est comme ça, Malo. Il sait inventer ce qu'il ne sait pas. Comme pour les loups, il sait crier comme eux. Il le fait quand il voit la lune pleine, suspendue entre les deux lampadaires de la rue.
Merci. Et Malo, Malo, ce qu'il aime, c'est les coquelicots.
Oui, c'était très important pour moi qu'on rencontre Malo avant. Et j'ai pris le temps. Il y a vraiment tout le début du livre. On rencontre Malo dans son innocence pure, dans sa magie, dans son émerveillement permanent. Et c'est un poète comme tous les enfants. Et ça, c'est très, très important pour moi de remettre l'enfant dans sa réalité d'enfant et de voir comment ça s'est avant. Parce que j'ai l'impression qu'on oublie ça, cette puissance de l'enfance. Est-ce que ça peut détruire des actes comme ceux-ci. Et donc, c'était important pour moi que, voilà, qu'on rencontre Malo dans tout ça. Et dans sa, donc lui, c'est voilà, fascination des coquelicots. Et chaque année, la fête des coquelicots, la naissance des coquelicots est pour lui très importante. Et comme chaque enfant a quelques obsessions, voilà, lui, c'est ça, la nature. Et donc, je prends le temps vraiment, pendant plusieurs pages, de parler de toute cette magie-là.
C'est aussi un fil rouge aussi qui nous guide, nous, en tant que lecteurs. On s'appuie sur ces coquelicots.
Tout à fait. Ça s'est fait un peu malgré moi au fur et à mesure. Il y a eu d'abord Malo qui avait ses coquelicots en adoration. Et puis, en fait, en m'intéressant aux coquelicots, qu'est-ce que c'était qu'un coquelicot, je me suis rendu compte que il avait beaucoup de points communs avec ses enfants, malheureusement... abîmé, froissé, on va dire. Il y a ça, la naissance, c'est très éphémère et c'est très beau. Et donc, il y avait ça. Il y a aussi le côté opiacé, l'opium qui endort. Il y a cette idée d'amnésie traumatique que vivent beaucoup d'enfants victimes. Et donc, je l'ai symbolisé. Et à un moment donné, c'est un petit peu symbolique, c'est un peu surréaliste, mais que c'est grâce au coquelicot qui peut rentrer en amnésie traumatique et qui peut survivre, etc., etc. Le coquelicot m'a vraiment donné pas mal de pistes intéressantes pour donner un petit fil rouge au livre, effectivement.
Fascinant, ouais. Et puis Jim, et tu as peut-être un petit extrait aussi à partager.
Oui. Alors, Jim. Laissez défiler les saisons. Laissez la neige blanchir, les cerisiers rosir, le soleil rougir, les feuilles mortes roussir. Laissez la nature s'emparer des béances pour éparpiller quelques espérances. Jim a déposé l'armure. Il a ôté sa carcasse immolée et l'a déposée au cœur de son histoire. Il est revenu un jour de février. Il a monté les escaliers et l'a déposée sur le tapis. Il aurait aimé que ce soit plus propre que ça, plus beau, plus grand. Mais il a sali le tapis avec sa chair meurtrie, son pu, son sang, ses souvenirs dégueulasses. Il a tout taché, a attendu, n'a rien reçu et il est reparti. Il aurait pu, face au mutisme lui succédant, regretter, s'apitoyer, succomber à la déréliction. Pourtant, dès la première marche descendue, il avait ressenti un profond soulagement. Puissant, beau et grand. Il n'était plus seul. Il n'était plus fou, il n'était plus le sacrifié.
Jim, quelle était justement la... Comment Jim Morrison t'a accompagné pendant l'écriture de ce livre ?
Alors Jim, ça c'est la petite parenthèse, on va dire, on ne peut pas l'expliquer trop dans le livre. En fait, c'est vrai que ce livre... Il est dédié à mon Indien. Mon Indien, c'est l'homme que j'aime. L'homme que j'aime est un enfant sacrifié. Et c'est un fan de Jim Morrison. Donc c'est vrai qu'il y avait aussi dans cet adulte en reconstruction, cet adulte qui cherche à retrouver sa lumière, une part de mon indien, bien que ce ne soit pas lui du tout dans l'histoire, mais voilà, il y avait un peu de lui quand même, et j'ai écrit ce livre aussi pour lui. Et donc, voilà, en pensant à cet adulte-là, cet homme-là, je me suis dit, ben voilà, c'est Jim Morrison qui peut l'aider, comme il a aidé l'être aimé.
Marion, est-ce qu'il y a des questions? Toi aussi, tu as lu le livre, tu as été touchée, il y a pas mal de questions qui te sont remontées. Est-ce qu'il y en a qu'on n'a pas abordées?
Ben, peut-être comment vous racontez l'après, parce que vous parlez de comment libérer la parole. Mais comment vous parler justement aussi de ce silence avant la libération de la parole? Comment vous l'abordez?
Donc là, c'est par rapport à le silence qui suit ou qui
précède.
Qui précède, ce long temps d'attente avant de prendre la parole, hein, c'est ça. Donc ce long temps d'attente, il vient, les chiffres, c'est qu'à peu près les victimes, celles qui arrivent à parler, c'est 16 ans après les faits. En général, hein, c'est pour ça qu'il y a aussi, par rapport à la CIVIS, il y a une des préconisations qui demande l'imprescriptibilité.
Jusqu'à présent, c'est 30 ans.
Alors, c'est 30 ans, mais on aimerait que ce soit encore plus long, parce qu'il y a des gens, c'est plus de 30 ans après qu'elles retrouvent la mémoire. Donc, pourquoi ce long silence? Parce que c'est impossible de dire, en fait, pour la plupart des victimes, pour plein de raisons. Alors, pour certaines, c'est l'amnésie traumatique qui les empêche, puisqu'elles ne se rappellent pas. Ça paraît incroyable, mais c'est un vrai système de protection neurologique. Hein. C'est le système qui oublie, qui range ça dans une case pour que la personne puisse survivre. Donc l'amnésie fait qu'on ne parle pas. La honte, malheureusement. Beaucoup de personnes ont honte parce qu'elles n'ont pas dit non. Parce que ce ne sont pas des viols avec agression. Il n'y a pas de coup. C'est très doux. On aime les hommes qui nous font ça. On aime notre père, on aime notre grand-père, etc. Donc il n'y a pas de violence. Donc on a l'impression que bah, puisqu'on n'a pas dit non, on est aussi responsable. Donc la honte, et les victimes se sentent responsables. La peur fait partie des raisons pour lesquelles on ne parle pas. Parce que la peur des représailles, la peur de faire du mal à maman, là pour le coup de pour le malo, c'est un peu ça, il a peur de faire du mal à sa mère, et puis la seule fois où il arrive à parler, il n'est pas entendu, donc c'est ça aussi, beaucoup savent que de toute façon ils ne seront pas entendus, etc. Donc il y a énormément de raisons, et beaucoup malheureusement de victimes mettent des années à parler, et beaucoup ne parleront jamais.
Et comme on disait tout à l'heure, celles qui arrivent à parler, celles qui arrivent à porter plainte, finalement,
très
voilà,
peu sont entendues.
Très peu sont entendues. C'est, je le rappelle, c'est 1%, c'est ça, 1% des plaintes qui sont poursuivies en fait des faits.
Ça, c'est la justice, et il y a une double peine qui est presque pire que celle-là, c'est la famille. C'est-à-dire que dans énormément de récits que j'ai entendus, beaucoup de personnes décident de ne pas écouter l'enfant pour pas sacrifier la famille. Donc toi, tu es déjà le sacrifié. Donc on sait ce qui t'est arrivé, mais on n'en parlera pas. Parce qu'un sacrifice, ça suffit, on ne va pas bousiller toute la famille. Donc ça, c'est une peine encore plus forte. C'est la famille qui refuse d'entendre. Donc peu d'enfants sont soutenus par la famille. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Dans ton livre aussi, voilà, The Sound of Silence résonne, parce que c'est tout l'enjeu, comme voilà, Paul Simon le dit, que le silence, tel un cancer, évolue. Et c'est ça, il gangrène tout.
Tout à fait, c'est d'autant plus pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est-à-dire que là, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, à 12h30, on peut parler de ce sujet-là à l'antenne, et là, rien que ça, rien que pour ça, pour ce moment-là qu'on vient de vivre, et pour peut-être une seule des personnes qui va nous écouter aujourd'hui, ça valait le coup de l'écrire ce livre, parce que c'est stop au silence en fait, c'est vraiment ras-le-bol quoi, ras-le-bol, et donc il faut en parler, il faut arrêter de dire que c'est tabou, faut arrêter de dire que c'est quelques enfants concernés, c'est un système, c'est systémique, c'est vraiment un problème de société qui nous concerne toutes et tous, c'est très important, donc oui... Le son du silence, il faut le faire taire.
Merci beaucoup, Diane. Vraiment, je recommande la lecture de ce livre, Coquelicot Noir. Et il y a plusieurs dates, d'ailleurs, où les auditrices, auditeurs vont pouvoir te rencontrer, discuter éventuellement avec toi. Ça commence, alors j'ai mardi 11, oui.
C'est 10.
C'est le 10, hein, il semble bien.
La première,
on est lundi 9. Donc
mercredi.
Mercredi
à la médiathèque de Ruyons.
De 16h30 à 18h, c'est ça, mercredi 11 mars. Et ensuite, jeudi, tu seras à la librairie du château à Aubenas à 19h. Et c'est Fabrice Bérard qui fera la médiation pour parler de ce livre, Le Coquelicot Noir. Donc voilà, allez-y, plongez-vous dedans. C'est âpre, ça décile un peu le regard. Ouais, merci.
Merci à
beaucoup,
vous.
Diane.
Merci.
Et merci à toi, Sylvain, pour la réalisation de cette émission. Merci, Marion, aussi, pour la préparation de cette émission, pour l'agenda, puis pour tout le reste. Restez à l'écoute, chères auditrices, auditeurs, à 13h. C'est la rediffusion de Sam Travail à 15h. Le Télex, à 17h, la rediffusion de cette onde curieuse, qui est, je le rappelle, aussi téléchargeable et réécoutable en replay à partir de 18h sur notre site internet. À 18h, Solidaire d'abord. À 19h, l'écho du parquet. À 21h, Hexagone Jazz and Bee, c'est la rediffusion de Didi Gillespie, The Giant. On se retrouve demain avec le château de Verchahut. Ciao.